Vous écoutez, on lit pour vous.
Les personnalités de l'année 2023, les pompiers forestiers, ils étaient au front. Un texte de Marie-Hélène Proux, paru dans le magazine L'Actualité, janvier-février 2024, volume 49, numéro 1. Grâce à eux, aucun décès ni domicile incendié n'a été répertorié au Québec, malgré l'année de tous les records en matière de feux de forêt. Apocalypse, zone de guerre, chaos, ceux qui ont combattu les feux de forêt au Québec l'été dernier usent de mots chargés lorsqu'ils évoquent les brasiers dantesques ayant forcé l'évacuation de 27 000 habitants de 27 municipalités et communautés autochtones. Les immenses champignons de fumée et le grondement des flammes qui avalaient les résineux à une vitesse folle resteront à jamais gravés dans leur esprit. 4,5 millions d'hectares de forêt ont été rasés par 564 incendies, soit environ 100 fois la ville de Québec ou de Montréal. Du jamais vu depuis au moins un siècle, assure Luc Dugas, directeur du Centre provincial de lutte à la Société de protection des forêts contre le feu, SOPFEU, pour qui la saison 2023 dépasse l'entendement, surtout dans la zone intensive. Dans ce secteur qui part du sud du Québec et s'arrête après le réservoir Manicouagan, les feux sont systématiquement combattus pour protéger les exploitations forestières, tandis qu'en zone nordique, la SOPFEU n'intervient que si des infrastructures sont en péril. La superficie de bois qui y a été décimée, citation, ne se compare en rien à nos graphiques antérieurs. Fin de citation, dit-il. C'est trois fois plus qu'en 2005, l'année record de l'OSBL. Il s'en est fallu de peu que des villes y passent et que des installations critiques d'Hydro-Québec soient endommagées. Si personne n'a péri et que le Québec a évité des pannes majeures, c'est beaucoup grâce à la bravoure de 235 pompiers et pompières de la SOPFEU, de 88 pilotes d'hélicoptères de flotte privée et de 19 équipages d'avions-citernes du service aérien gouvernemental. Bon nombre ont travaillé presque sans arrêt de mai à septembre, au moins 12 heures par jour, loin de leur famille, risquant leur vie pour contenir des incendies aux proportions monstrueuses. Citation. Parfois, les flammes étaient si hautes que j'en avais froid dans le dos lors de survols en hélicoptère. Fin de citation. Témoigne le pompier forestier Julien Brault, qui a éprouvé un « stress incroyable » en voyant tout le territoire réduit à néant. Citation. « Si on fait cette job, c'est parce qu'on aime profondément la forêt. Mais cette fois, on affrontait des géants qui forçaient l'humilité. On était des mini-pions à côté. » Fin de citation. Les conditions étaient propices à la formation de ces Goliaths depuis le mois de mai, anormalement sec. Quand une grosse ligne d'orage a traversé le Québec le 1er juin, la foudre a embrasé le sol à 182 endroits. Ce soir-là, les pompiers de la SOPFEU ont figé en allumant leur cellulaire. L'application leur permettant de visualiser l'état des incendies à l'aide de symboles de couleur, géofeu, avait l'air d'un arbre de Noël, raconte Catherine Thibodeau, pompière forestière. Citation. J'ai fait une capture d'écran tellement c'était exceptionnel. Il y avait des alertes à la grandeur du Québec. Fin de citation. Le lendemain, à 11 heures, ses collègues et elle-même recevaient l'ordre de quitter sur le champ l'incendie qu'ils n'avaient pas fini d'éteindre près de la future mine Windfall afin de combattre 115 km plus à l'ouest, celui aux portes de Lebel-sur-Quévillon. Ce dernier allait devenir le plus gros feu de l'histoire de la province en zone intensive, avec 482 000 hectares brûlés. Citation. Ceux qui ont accumulé 30 ans de service n'en revenaient pas qu'on abandonne un feu, poursuit Catherine Thibodeau. On a compris que l'heure était grave. Fin de citation. Quand les pompiers ont quitté Windfall en camionnette, un énorme mur de flammes les suivait. Citation. Tout le monde avait la patate qui débattait. Fin de citation. Pour une rare fois au Québec, des feux de forêt mettaient en danger la population. en dépit de l'aide apportée par 1213 pompiers étrangers, 1142 combattants canadiens, dont des membres des forces armées, et 500 volontaires québécois formés par la SOPFEU, les auxiliaires dans le jargon, certains brasiers en zone intensive n'ont jamais pu être affrontés. Citation : Laisser aller des incendies, c'était une première pour moi en 24 ans et ce n'était pas le fun, admet Luc Dugas. Surtout quand les avions citernes ont dû battre en retraite devant l'incendie qui menaçait Clova pour s'attaquer à celui de Sainte-Terre. Fin de citation. Pour éviter ces situations crève-cœur, le haut dirigeant souhaite que Québec accorde plus de fonds à la SOPFEU lors du prochain budget en mars 2024 afin d'augmenter d'au moins 30 % les effectifs de pompiers. Car avec le réchauffement planétaire, il y aura d'autres saisons catastrophiques. Citation : Les scientifiques le prédisent. Ce n'est pas si ça va se produire, mais quand. Fin de citation. Vous écoutez les personnalités de l'année 2023, les pompiers forestiers, ils étaient au front. Un texte de Marie-Hélène Proux, paru dans le magazine L'Actualité, janvier-février 2024, volume 49, numéro 1. Citation : Dans les circonstances, on a été chanceux qu'il y ait si peu d'accidents, car nous courions un marathon et la fatigue nous a tous gagnés après quelques semaines. Fin de citation. Michel Vallée, aéropointeur à la SOPFEU. Ce n'était pas le fun non plus d'annoncer aux habitants des villes évacuées qu'ils avaient intérêt à faire leur baluchon. Citation : J'avais le moton. Parce que plusieurs pleuraient, déchirés à l'idée de quitter leur maison, témoigne Valérie Martin, pompière forestière depuis 6 ans. Ils se raccrochaient à l'espoir que leur numéro ne serait pas pigé au bingo du malheur. Fin de citation. Malgré quelques échanges tendus avec des résidents, les combattants ont surtout reçu des marques de reconnaissance. Des enfants leur faisaient des dessins, des automobilistes klaxonnaient pour les encourager. Citation : Ça m'a rempli de fierté parce que les pompiers forestiers sont méconnus au Québec, alors qu'ils sont très appréciés dans l'Ouest canadien. Fin de citation, affirme Jean-François Meilleur, qui est accracheur de feu professionnel dans une autre vie. Ça ne s'invente pas. Citation : Ici, on est un peu comme des fantômes. Fin de citation. Des tapes dans le dos méritées, compte tenu du caractère exigeant du métier. Citation : Il faut aimer manger de la misère. Fin de citation, s'esclaffe Valérie Martin. Transporter 60 livres d'équipement sur son dos, dérouler des tuyaux sur des kilomètres, parfois sur des à-pics, se frayer des chemins à la tronçonneuse, se faire dévorer par les insectes, endurer des chaleurs extrêmes, risquer d'être écrasé par des arbres. À la SOPFEU, on a pour principe que personne ne devrait mourir pour une épinette. Mais le travail reste dangereux. Et il l'était encore davantage l'été dernier. Au Canada, 6 pompiers forestiers et 1 pilote d'hélicoptère sont morts et à la mi-juillet, 2 combattants auxiliaires ont subi des brûlures, graves dans un cas. Pris de panique, les 2 hommes tentaient de fuir un gigantesque brasier dans le nord du Québec. Citation : Dans les circonstances, on a été chanceux qu'il y ait si peu d'accidents, car nous courions un marathon et la fatigue nous a tous gagnés après quelques semaines. Fin de citation, dit Michel Vallée, aéropointeur à la SOPFEU. Son rôle consiste à élaborer des stratégies de combat et à coordonner le trafic aérien, le tout à bord d'un aéronef, à vue, sans l'aide d'un radar. Citation : Je suis comme un mini-aéroport. La moindre erreur d'inattention peut tuer des pilotes. Fin de citation. Durant la saison, il a effectué 2 fois plus de missions que d'habitude, en plus de gérer un nombre inédit d'avions citernes et d'hélicoptères affairés à éteindre des incendies, parfois sous une pluie de tisons. Le risque de collision était d'autant plus élevé que la visibilité était largement réduite. Francis Mathieu, pilote d'hélicoptère depuis 18 ans, raconte avoir dû manœuvrer son appareil à travers d'immenses murs de fumée afin de récupérer au sol des pompiers forestiers français coincés par des flammes à la baie James près de la communauté Cree de Wemindji. Citation : Quand on les a sortis de là, le commandant a arraché son insigne d'armée pour me le remettre. Fin de citation, relate le chef pilote pour l'entreprise hélicoptère Panorama. Ce dernier a aussi fait de l'arrosage avec un baquet d'écopage, une sorte de piscine pouvant contenir jusqu'à 20 000 livres d'eau. Pour remplir ce bassin attaché à l'appareil par un câble, l'hélicoptère le dépose dans un lac au-dessus duquel il demeure stationnaire, avant de repartir avec son butin suspendu à l'engin tel un pendule. Une opération délicate pouvant causer des écrasements, que Francis Mathieu a répété près de 1000 fois pendant la saison, heureusement sans anicroche. Les équipages d'avions-citernes ont aussi battu des records d'écopage. Citation : D'habitude, on fait de 10 000 à 12 000 largages d'eau durant l'été, mais là, on en a fait 21 800. Fin de citation, souligne le chef pilote Pascal Duclos, qui travaille pour le service aérien gouvernemental. Le remplissage des citernes est particulièrement hasardeux. Citation : Les lacs ne sont pas des pistes d'atterrissage. Il y a des hauts fonds, des roches, des montagnes autour. Fin de citation, explique-t-il. Et puis, les fameux canadairs rouges et jaunes, des CL-415 et CL-215, sont constamment en train de décoller et d'atterrir, les phases les plus critiques en aviation. Trois pilotes sont morts en service au Québec depuis la fin des années 1980. Malgré d'intenses moments de découragement, les combattants ont tous eu le sentiment de se dépasser et de participer à l'histoire avec un grand H. Citation : C'était une expérience humaine incroyable, parmi les plus belles de ma vie. Fin de citation, affirme le pompier Marc Fortier. Le militaire à la retraite a adoré travailler avec les Cris, Algonquins et Atikameks venus prêter main-forte. Citation : Le cœur sur la main, toujours souriant. Fin de citation, et parle avec émotion des liens uniques créés dans l'adversité avec ses coéquipiers. Citation, je me suis senti vraiment utile. Et même si on est des gars et des filles de bois peu habitués aux projecteurs, ça fait du bien de sortir de l'ombre et d'être reconnu. Fin de citation. C'était les personnalités de l'année 2023, les pompiers forestiers, ils étaient au front. Un texte de Marie-Hélène Proulx paru dans le magazine L'Actualité, janvier-février 2024, volume 49, numéro 1.
Plongeon huard, une espèce emblématique en eau trouble. Un texte de Daniel Toussaint paru dans le magazine Québec Oiseau, volume 35, numéro 3, printemps 2024. Près de 95% de la population mondiale du plongeon huard, estimée à environ 250 000 couples territoriaux, niche au Canada, dont plus de la moitié au Québec et en Ontario. Sans surprise, cet oiseau charismatique est celui qui s'est attiré la faveur populaire en 2017 dans le cadre d'un concours national visant à doter le pays d'un emblème aviaire. Mais le jury a plutôt opté pour le mésanger du Canada, l'Ontario ayant déjà fait du huard son emblème dès 1994. C'est d'ailleurs en Ontario qu'est né en 1981 l'Inventaire canadien des plongeons huards, ou ICPH. Pour souligner le 40e anniversaire du programme, Oiseau Canada a publié un rapport présentant une synthèse des informations recueillies. L'étude met en lumière un fait étonnant. La productivité des plongeons aurait subi une diminution de près de 30% ces dernières décennies. On aurait même atteint le seuil sous lequel on estime que le nombre de jeunes produits ne permet pas de compenser la mortalité des adultes et des juvéniles. Cette situation préoccupante, qui était jusqu'à ce jour passée inaperçue, toucherait toutes les provinces canadiennes à l'exception du Québec, où la productivité serait demeurée stable. Suivre le plongeon UR à différents niveaux. Les programmes de recensement d'oiseaux à l'échelle continentale, nationale et régionale inclinent à penser que les populations du UR seraient stables ou en augmentation dans l'ère de nidification. C'est notamment le cas du relevé des oiseaux nicheurs, effectué depuis 1966 en Amérique du Nord, des atlas des oiseaux nicheurs du Québec et des provinces et États limitrophes réalisés durant la période 2000-2014, ainsi que du suivi des couples nicheurs de sauvagines au Québec, un inventaire héliporté effectué annuellement depuis 1990 par le Service canadien de la faune. Cependant, ces recensements de grande envergure ne fournissent pas d'indications directes sur le succès reproducteur des oiseaux. Celui-ci est parfois évalué dans le cadre d'études plus locales. Par exemple, une vingtaine de couples sont suivis depuis 2004 au Parc national du Mont-Tremblant. La productivité annuelle, plutôt stable, oscille autour de 0,6 jeunes par couple, rien d'inquiétant. En revanche, au Parc national de la Mauricie, où 17 lacs font l'objet d'un suivi depuis 1987, on observe une lente érosion du nombre de juvéniles malgré une hausse soutenue de l'effectif de couples nicheurs. Bien que de portée restreinte, cette dernière étude va donc dans le même sens que les constats précités de l'ICPH, eux-mêmes appuyés par d'autres recherches sur la survie des oiseaux, dont celle des jeunes adultes. Des plongeons célibataires. Centrés sur les couples nicheurs, les recensements visant le plongeon UR ne tiennent pas compte de l'important contingent de jeunes adultes non reproducteurs. Pour simplifier, appelons-les célibataires, estimés à plus de 100 000 individus dans l'ensemble de l'aire de reproduction. Nombre d'entre eux restent sur les côtes où les plongeons hivernent jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans avant de venir prospecter les lacs occupés par des couples, habituellement pour tenter d'évincer un adulte nicheur ou pour prendre possession d'un territoire vacant. Ces oiseaux, qui assurent ainsi le remplacement des adultes et le maintien de la population, ne sont cependant pas pris en compte dans l'évaluation des tendances démographiques car ils sont difficiles à détecter et à dénombrer en raison de leur comportement furtif et de leur mobilité. Pour pouvoir évaluer la tendance de cette cohorte de célibataires, on doit capturer et baguer des juvéniles afin de pouvoir les reconnaître lorsqu'ils reviennent au site de nidification à l'âge adulte. Une recherche de cette nature a été effectuée au Wisconsin entre 1993 et 2019. Durant cette période de 27 ans, on a constaté une diminution de plus de 50% du nombre de célibataires, un phénomène jusqu'alors passé inaperçu et qu'on impute notamment à une réduction dans la disponibilité des proies préférées par l'oiseau. Curieusement, malgré ce déclin marqué du nombre de jeunes adultes, le nombre de couples territoriaux n'avait pas changé dans l'ère d'étude. Comment interpréter cette apparente contradiction? D'une part, les territoires se libèrent lentement car les oiseaux ont une grande longévité, nichant de leur maturité vers 6 ou 7 ans jusqu'à l'âge de 20 à 30 ans. D'autre part, les célibataires ne parviennent pas à s'approprier le territoire avant l'âge de 5 à 11 ans et la plupart d'entre eux ne s'installeront même jamais de sorte que la diminution éventuelle de leur nombre n'a pas d'effet à court terme sur la population reproductrice. Jusqu'à un certain point de bascule, il pourrait donc rester assez de célibataires pour combler les territoires libres. Ces facteurs expliqueraient l'important décalage entre la baisse du nombre de célibataires et le déclin de la population d'adultes reproducteurs. On commencerait tout juste à voir diminuer le nombre de territoires occupés par des plongeons à certains endroits, estime Doug Tozer, directeur du programme Oiseaux aquatiques et milieux humides d'Oiseaux Canada. Mercure, pluies acides et changements climatiques. En plus d'un recul des célibataires, l'étude américaine, à l'instar de l'ICPH, a révélé une baisse significative du nombre de poussins produits. Comment s'explique cette diminution soutenue du recrutement chez les UR, nombre de jeunes prêts à l'envol produits par couple et par année? Selon les chercheurs d'Oiseaux Canada, elle résulterait d'une interaction complexe entre les effets des précipitations acides, du mercure présent dans les poissons et des changements climatiques. Précisons d'abord que le problème des pluies acides qui faisait la manchette dans les années 1970 et 1980 est loin d'être réglé. Certes, une certaine réduction des dépôts acides a été constatée durant les dernières décennies près des grands centres d'émission, centrales thermiques et fonderies principalement, par exemple autour de la fonderie de Sudbury en Ontario. Cependant, d'autres sources se sont ajoutées depuis, dont les rejets acides liés à l'exploitation des sables bitumineux dans l'Ouest canadien et à la production pétrolière et gazière dans les maritimes. Ajoutons que les lacs du bouclier canadien qui accueillent la majeure partie des plongeons nicheurs reposent sur une assise géologique qui leur confère un faible pouvoir tampon, ce qui les rend particulièrement sensibles à l'acidification. Les pluies acides transportent des métaux toxiques qui affectent la croissance, la reproduction et la survie des poissons, et, par conséquent, des UR qui s'en nourrissent. Cela est particulièrement notable sur les petits lacs, qui sont généralement plus acides et abritent donc moins de poissons. Un aliment considéré comme essentiel au développement des UR d'eau. Le mercure, que les courants atmosphériques transportent d'aussi loin que l'Asie, est probablement le contaminant qui a les effets les plus délétères. Il peut s'accumuler le long de la chaîne alimentaire jusqu'au sommet de celle-ci où trône l'espèce. L'intoxication qui en résulte rend les adultes léthargiques, moins enclins à couver et à prodiguer les soins parentaux, et les jeunes plus sujets à un retard de croissance, aux infections et à la prédation. En outre, la fluctuation du niveau d'eau et la hausse générale de la température de l'eau des lacs, conséquence d'un climat plus chaud, exacerberait ce problème en favorisant l'oxydation des métaux toxiques et une activité accrue des bactéries qui rendent le mercure assimilable par les organismes aquatiques. D'où une plus grande concentration de mercure chez les poissons et, partant, chez les plongeons. Par ailleurs, les bouleversements climatiques sont susceptibles de perturber l'écosystème de multiples autres façons. Par exemple, il pourrait modifier la répartition et l'abondance des proies du plongeon UR, comme les poissons préférant les eaux fraîches. Il pourrait aussi influer sur l'abondance des mouches noires, dont le harcèlement incessant force parfois les couples à abandonner leur nid. Les feux de forêt de plus en plus étendus, comme ceux ayant ravagé de larges pans du Québec durant l'été 2023, risque d'entraîner une détérioration de la qualité de l'eau des lacs fréquentés par l'espèce. En outre, les oiseaux seront de plus en plus exposés à certains agents pathogènes exotiques comme le virus du Nil occidental, dont la propagation est favorisée par des températures plus élevées. Une vie à haut risque. Comme si ce n'était pas assez, ces oiseaux aquatiques doivent aussi composer avec de nombreuses autres menaces d'origine anthropique qui les touchent à divers degrés. L'une des plus courantes est l'empoisonnement après l'ingestion accidentelle d'agrès de pêche en plomb. Cette intoxication comptait pour près de la moitié des cas de mortalité documentés chez les adultes dans une étude menée en Nouvelle-Angleterre. Autrement, des plongeons subissent des traumatismes, parfois fatals, lorsqu'ils sont heurtés par des embarcations de plaisance. Exacerbés par l'engouement pour la vie du chalet, le développement des rives des lacs entraîne pour sa part la perte ou la perturbation de sites de nidification. Par ailleurs, on estime à plusieurs milliers la récolte annuelle légale de plongeons huards dans le nord du Canada et en Alaska dans le cadre de la chasse traditionnelle, un fait peu connu. Sur les aires d'hivernage, les marées noires posent un risque bien réel. Plus de 200 plongeons huards ont péri mazoutés lors du naufrage de l'Exxon Valdez en Alaska en 1989, alors qu'un déversement accidentel survenu en 1996 au large du Rhode Island en a tué plus de 400. L'habitat hivernal de l'espèce pourrait aussi être perturbé par le développement des parcs éoliens marins. Que nous réserve l'avenir? Malgré les marges d'incertitude associées à ce genre d'études, la diminution de la survie des célibataires constatée aux États-Unis et la baisse du succès reproducteur révélé par l'ICPH jettent une ombre inquiétante sur l'avenir du plongeon huard. La santé des écosystèmes aquatiques, dont cet oiseau est une véritable sentinelle, se dégrade peu à peu sous l'effet conjugué de divers facteurs, essentiellement d'origine humaine. Il est donc de notre responsabilité d'agir pour corriger le tir pendant qu'il est encore temps. S'inscrire à l'ICPH reste une façon simple pour les amoureux de la nature de contribuer à la science qui guidera les décisions. C'était Plongeon huard, une espèce emblématique en eau trouble. Un texte de Daniel Toussaint paru dans le magazine Québec Oiseau, volume 35, numéro 3, printemps 2024.